Moi, je vais vous dire le plus essentiel de tous les mobiles du général Salan, le véritable. Le serment fait à l'Algérie française de rester avec elle et de combattre pour elle. Oui, bien sûr. L'engagement pris sur le forum, renouvelé par les pièces innombrables et dont vous avez, si je puis dire, une connaissance prodigieuse. Oui. Mais le mobile le plus profond, le mobile qui va jusqu'au cœur de l'homme, c'est le sentiment puissant et vrai d'avoir été trompé et d'avoir ainsi trompé les autres. Or, il croit qu'il a été trompé. En fait, je suis certain que le général de Gaulle estime que le général Salan n'a pas été trompé. Et que si la question était posée à cet illustre chef d'État, il répondrait négligemment, il aurait dû comprendre. Ce qui d'ailleurs est tout à fait conforme au style de vie du général de Gaulle. Il aurait dû comprendre. Lorsque M. Debré est venu à cette barre, il nous a indiqué que certes les pauvres gens, les va-nu-pieds, et d'autres expressions émanant directement des hauteurs du Conseil d'État. Oui, les pauvres bougres pouvaient très bien n'avoir pas compris. Mais que quand on avait été commandant en chef, qu'on avait approché et correspondu avec le chef de l'État, il n'y avait aucune circonstance atténuante, il fallait comprendre. Monsieur Michel Debré ne connaissait alors sûrement pas la lettre du 24 octobre 1958. Où véritablement le général Salan ne pouvait rien comprendre d'autre que ce qu'il avait lu, ce qu'il avait cru pour l'avoir lu, il le croira jusqu'en septembre 1960. Et quand il s'éloigne avec le général Jouot, c'est bien sûr un général d'armée, fidèle à une parole et à un engagement qu'il a pris, et qu'il a pris, nous le savons, alors qu'il n'avait pas tous les éléments nécessaires pour se former une conviction réelle, mais c'est aussi un homme. Car un général d'armée, c'est aussi un homme, comme un procureur général et comme un avocat. C'est un homme qui se reproche amèrement et violemment d'avoir été trompé et de ce fait d'avoir trompé. C'est cela le fond du problème. C'est cela le mobile essentiel, déterminant de l'action du général Salan. Alors, messieurs, on vous a demandé la peine capitale. Prenez garde à ce mobile. Parce qu'il n'est pas possible, à mon sens, moralement, de condamner à mort un homme qui a été traité comme le général Salan a été traité entre le 13 mai 58 et le 20 septembre 60. Ce n'est pas possible. Parce que nous n'oublions pas qu'il a aussi trompé les autres. Et que lorsqu'il s'éloigne avec Jouot, ils se sentent tous deux comptables, comme les hommes d'armes qu'ils sont, de tous les désespoirs individuels et collectifs qui arriveront à faire de l'armée française ce qu'elle est aujourd'hui. Ce qui est d'ailleurs tout à fait normal, ce qui était nécessaire, pour arriver au but d'intérêt national, l'indépendance de l'Algérie que depuis le début, le général de Gaulle avait défini. Et c'est ainsi que nous arrivons à l'Ouest. Vous avez bien écouté, monsieur le procureur général. Avec la plus grande attention, croyez-le, j'ai fait une constatation. Ce n'est peut-être pas la même que celle que vous avez faite, messieurs du haut tribunal, nous l'allons voir. Je ne saurai jamais la vôtre, mais vous connaîtrez la mienne. Monsieur le procureur général ne tient pas du tout, dans sa personne, dans son esprit, dans sa manière d'être et de vivre, dans son éthique aussi, il ne tient pas du tout à ce que le général Salan soit fusillé. C'est pourquoi la moitié de son réquisitoire, vous l'avez bien remarqué, a consisté à examiner une à une, non pas les charges. Les charges, c'est moi qui vais les examiner, parce que j'ai le dossier à plaider, croyez-le, je le plaiderai. Mais il a recherché les circonstances atténuantes. Ce Cela a été, messieurs, pour nous tous un bonheur de voir monsieur le procureur général rechercher avec autant de soin la liste récapitulative des circonstances atténuantes que l'on pouvait découvrir au bénéfice du général Salan. Et je dois vous dire, monsieur le procureur général, que vous en avez trouvé que je n'avais pas imaginé moi-même. Je vous remercie de ce concours apporté à la défense. Mais quand vous avez entrepris de nous dire pourquoi aucune de ces circonstances atténuantes ne pouvait être retenue, permettez-moi de vous le dire, avec toute la déférence ancienne mais non prescrite que je vous porte, que vous avez été moins bon. Car la question, c'est le procureur général Gavalda qui l'a posée. Et qui donc répondait ? Monsieur Jacques Fauvet, le révérend père Riquet, éventuellement Montaigne, un peu Pascal, monsieur de la Mennay sûrement, et d'une manière générale, les pères de l'Église. Mais de réponse Gavalda, non. Il y avait toujours une référence. Et depuis que je pratique, messieurs, des relations avec les procureurs généraux et autres redoutables porteurs d'accusations, j'ai fini par acquérir une modeste psychologie qui me permet de vous affirmer qu'il y avait trop de références à des tiers pour que ces réponses d'abord fussent bonnes. Leurs auteurs ayant moins de talent que monsieur le procureur général, et ensuite, pour que je fusse assuré que tout cela émanait réellement du fond de l'être de monsieur le procureur général. Cette observation faite sur des réquisitions, qui par ailleurs furent remarquables, sauf dans la partie terminale, m'amène, messieurs, à examiner l'activité du général Salan comme chef de l'OAS. Je ferai tout d'abord une observation liminaire. J'ai entendu avec émotion, monsieur le président du Haut Tribunal Militaire et vous, monsieur le procureur général, énumérer les plastiquages, les meurtres, les hold-up et tous ces actes généralement regrettables. Mais je ne vous ai entendu énumérer aucun fait majeur. Et je vous fais là une confession absolue. Je suis certain que le général Salan, et vous l'avez tous entendu dire par des témoins beaucoup plus autorisés que moi-même, a été en Indochine un grand chef de guerre, qu'il a été en Algérie un grand chef tout court, jusqu'à ce qu'il la quittât. Je ne peux pas, et il le sait, monsieur, je ne peux pas dire qu'il a témoigné de la même efficacité à la tête de cette organisation. Et pourtant, c'est un homme dont tout le monde vous a dit l'intelligence et mieux que cela, le coup d'œil. J'ai encore cela dans l'oreille, émanant d'un témoin qui parlait du général Salan en Indochine, un coup d'œil, permettant de déterminer en un instant au regard d'une situation, se produisit-elle dans le plus petit des villages, ou sur la plus modeste étendue, les éléments nécessaires et les moyens indispensables pour y faire face. C'est cela, messieurs, que le général Valuy, peut-être, ou un autre chef éminent, est venu nous dire, et je l'ai retenu. Mais je suis dans l'obligation de constater qu'à la place d'un grand chef militaire, un ex-militant communiste à la tête de l'OAS aurait accompli une action différente de celle du général Salan. C'est possible. Vous savez, l'un de ces militants austères, ils le sont, brûlant d'un feu sombre, mais parfaitement résolu à tout subordonner à l'objectif. Supposons-le un instant, messieurs, et je m'en excuse, avec les forces dont il eût disposé. Serions pas là. Avec les troupes dont disposait le général Salan, je crois que s'il avait appliqué les mêmes conceptions qu'en Indochine ou en Algérie dans son commandement public, je crois que nous ne serions pas là. Monsieur Morin, qui va nous dire, et cela est capital pour vous, comment se présente l'action de l'OS? Je prends sa déposition du mois de mai. Au 20 septembre, jusqu'au 20 septembre, c'est la période de la mise en condition. C'est la menace, et la menace est souvent verbale, C'est ensuite seulement qu'elle se concrétisera par des plastiquages. Monsieur Morin, messieurs, n'est pas un témoin favorable au général Salan. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'il disait Salan. Ce qui prouve qu'il suffit d'un décret pour faire un préfet, mais qu'on ne fera jamais un homme du monde avec un décret. Il n'observe pas en effet ce qu'appréciait le président du conseil de guerre jugeant le maréchal Ney, les égards dus au malheur. Magnifique formule, messieurs, mais M. Morin l'ignore, il ne connaît pas. M. Ailleret non plus, d'ailleurs. C'est l'époque, dit M. Morin, des menaces souvent verbales et de la mise en condition. Ce sont les concerts de casseroles. Tribunal militaire s'en souvient peut-être pour les avoir entendus au moins à la radio. Ou pour en avoir lu les récits, concerts de casseroles, concours de pavoisement, arrêt de travail limité. Et finalement, au mois d'août, on nous indique que lorsque on demande de frapper les cinq notes d'Algérie française tous les jours à 12h05, les automobilistes klaxonnent les cinq notes d'Algérie française. C'est probablement ce que M. Morin appelle la mise en condition. Ce n'est pas très grave. C'est M. Morin qui le dit. Ce n'est pas moi. Observation. Tout à l'heure, Monsieur le procureur général, vous avez fait une déclaration qui véritablement m'a stupéfié. Vous avez dit, si le général Salan, une fois arrêté, et vous avez ajouté, et il est temps encore, vous l'avez dit, si le général Salan avait ordonné de sa prison le cessez-le-feu, cette affaire vue sous l'angle non seulement du ministère public, mais du gouvernement, ce qui est bien naturel, aurait été placée sous un autre éclairage. Mais, monsieur le procureur général, je crois vous avoir lu tout à l'heure un texte remarquable, émanant du général de Gaulle, et dans lequel il était spécifié que toutes, oui, toutes les tendances seront consultées. Et il m'est apparu que dans l'invitation que vous lanciez au général Salan, il y avait un retard singulier. Est-ce que vous pensez, monsieur le procureur général, qu'entre le 26 avril et le 20 septembre, alors qu'il ne s'était rien passé d'irrémédiable, il n'aurait pas été possible, sachant, et sachant très bien ce que représentait le général Salan, à ce moment où tous ceux qui voulaient demeurer français sur cette terre française représentaient, c'était bien vrai, beaucoup plus de monde que le FLN, est-ce que vous croyez que cet appel n'aurait pas pu être lancé, non pas par vous, en mai 1962, au cours d'un réquisitoire au terme duquel vous réclamez la peine capitale contre le général Salan, mais ne croyez-vous pas que cet appel n'aurait pas pu être adressé à ce moment-là, ce que vous ne croyez pas? Et j'y pensais en entendant Maître Goutermanoff, est-ce que vous ne croyez pas qu'un mouvement du cœur, un cri du cœur, une main tendue, une explication donnée? Enfin, celle-ci, l'intérêt national, c'est l'indépendance de l'Algérie. Je vous le dis, et nous allons ensemble prendre les mesures nécessaires pour faire face à cette situation dont je vous dis et je vous répète qu'elle est conforme à l'intérêt national, qu'elle est indispensable dans le contexte international et que finalement, il sera possible, je vous en donne ma parole en nous y mettant tous, de parvenir à la rendre satisfaisante pour chacun. En appelant ses auditeurs, par exemple, de ce mot qui, oui, bien sûr, écorche les lèvres. Mes amis. Mais le dire, est-ce que vous croyez, monsieur le procureur général, que le général Salan serait resté insensible à un appel de cette sorte et de cette qualité humaine? Vous savez bien que non. Et il n'y avait même pas besoin pour vous en convaincre des dépositions des témoins qui sont venus à cette barre. Que s'est-il passé en fait d'appel? Il s'est passé la guerre. Et j'ajoute, qui a commencé la guerre? Voilà une question à laquelle il est en général assez difficile de trouver une réponse satisfaisante dans les manuels d'histoire, puisque l'on croit généralement que c'est l'Allemagne qui a commencé la guerre de 1914, alors que certains auteurs s'efforcent de nous convaincre que, paraît-il, il n'en est rien. Mais lorsqu'il s'agit de savoir qui a commencé, une certaine forme de violence, inadmissible en toutes circonstances, lorsqu'il s'agit d'une contestation, d'une lutte qui oppose les membres d'un même pays, là, c'est très facile. Vous avez les dates. Monsieur Morin vous a dit jusqu'au 20 septembre. Vous demandiez, monsieur le procureur général, au docteur Cugnot l'autre jour, pourquoi il n'avait pas saisi, monsieur le procureur général de la Seg, de fait regrettable, alors qu'il était en train d'extraire deux balles que celui-ci avait dans la tête. Vous lui avez demandé pourquoi il n'avait pas saisi, qui plus est, la commission de sauvegarde. J'ai l'heureuse fortune d'avoir entre les mains des pièces auxquelles vous accordez pleine valeur, puisqu'ils émanent précisément de la commission de sauvegarde. C'est le rapport de M. Pierre Voisard, adressé à M. le président Patin, président de la commission de sauvegarde des droits et libertés individuelles. Et ce rapport nous apprend que dans la nuit du 12 au 13 septembre 1961, c'est-à-dire à l'intérieur du délai d'agitation purement verbale, des casseroles, des émissions pirates et des drapeaux, dans la nuit du 12 au 13 septembre 1961, 225 Européens ont été appréhendés et transférés le 13 au camp de Djorf, situé à 15 km de Msila, dans le sud constantinois. Vous avez remarqué, messieurs, et je le dis pour les membres non magistrats du haut tribunal militaire, que du moment qu'ils étaient internés, c'est qu'ils n'avaient rien fait. Car s'ils avaient fait quelque chose, ils eussent été déférés au parquet et au juge d'instruction. C'étaient donc des innocents dont on jugeait simplement la circulation nocive en ville. À cette date, je cite, « Ce camp était dans un état de malpropreté repoussant. Immondices et cadavres d'animaux en décomposition. Murs des locaux recouverts de crasse et de vermine. Les paillasses avaient été volontairement souillées. L'électricité ne fonctionnait pas, et l'eau transportée par camion-citerne en raison de l'extrême sécheresse était sévèrement contingentée. Sur 225 internés, 75 devaient être transportés dans un état lamentable à l'hôpital de Bouira. Je cite toujours, « La décision de désaffecter le camp de Djorf a été prise le 14 octobre. Elle devait être exécutée d'extrême urgence. Elle ne l'a pas été. » Que l'on songe à ce sujet, à l'effet déplorable que pourrait produire sur une commission parlementaire la visite de ce camp et la campagne de presse fondée sur des données, hélas, trop réelles. Il y avait là, messieurs, vous ne l'avez pas oublié notamment, cette femme de 78 ans dont Maître Calflèche vous disait qu'elle y était morte. Puis ce même rapport nous donne des renseignements sur la femme du docteur Salasque, appréhendée dans la nuit, du 7 au 8 septembre, c'est M. Voisard, conseiller d'État, qui l'écrit, est conduite à 1 h du matin à la caserne des Tagarins et soumise d'abord à un interrogatoire fort courtois du colonel de Brosse. Puis, cet officier supérieur, n'ayant pas estimé ses réponses satisfaisantes, l'a remise à une équipe de 4 policiers. Je ne vous lis pas la suite, c'est affreux. Et les certificats médicaux sont hélas entre mes mains. Monsieur Voisard indique que 7 ou 8 affaires étaient en instance d'enquête, notamment celle concernant Pierre Falcon, le 10 septembre 1961, empalé sur une bouteille à la caserne des Tagarins. Je m'empresse d'ailleurs de vous dire, messieurs, que tous ces faits sont amnistiés, car à côté du décret d'amnistie qui s'applique aux félagas et à leurs complices, il y en a un autre qui s'applique précisément aux excès commis par les forces de l'ordre. Par conséquent, nul ne sera jamais inquiété pour avoir torturé Mme Salasque ou M. Falcon, ce qui gêne un peu la morale, mais ce qui m'amènera un jour à dire comment est mort Maurice Audin. Car il ne faut pas toujours exagérer. Je dis que je ne conteste pas et que ce n'est pas le devoir ni le droit d'un avocat de contester la nécessité pour le pouvoir exécutif ou pour le pouvoir législatif, à qui en fait cette mission est confiée, de prendre des dispositions portant amnistie. Ce n'est pas, messieurs, un avocat qui va protester contre des dispositions de cette nature. Toutefois, monsieur le procureur général, il faudrait bien retenir ce propos essentiel de monsieur Vinciguerra, député d'Alger, que vous avez entendu ici, et qui vous a dit, avec la plus grande vérité du monde, « Je ne connais aucune jolie guerre, et je ne connais aucune jolie révolution. C'est parfaitement exact, messieurs. Aucune jolie guerre, aucune jolie révolution. Alors là, nous sommes bien partis. Aux morts vont s'opposer les morts. Aux plasticages vont s'opposer les plasticages. Aux blessés vont s'opposer les blessés. Il y aura d'ailleurs des blessés de diverses catégories. Parce qu'il y a des blessés qui ont droit aux 5 colonnes à la une et à la télévision. Et puis il y a les 2 petits Garcia. Cette petite fille et ce petit garçon, le crâne fracassé contre les pavés de la rue d'Oran. Ah, pour eux, il n'y a pas de 5 colonnes à la une. Ils ne sont pas intéressants. Si je le rappelle, c'est parce que lorsqu'on va rendre la justice, il faut vraiment que sur les violences, tout ait été dit. Mais à ces violences contre les gens d'Alger vont répondre d'autres violences qui seront de leur fait, c'est vrai. Seront-elles proportionnées à l'attaque? Je n'en sais rien. Il ne faut jamais que le pouvoir commence. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Quand vous n'avez pas de camp de Djorf, vous n'avez pas de plasticage. Et quand vous ne torturez pas à la caserne des Tagarins, on ne tire pas sur les forces de l'ordre, c'est un enchaînement inéluctable. Soyons donc sincères et vrais à tout cela. Que s'ajoute-t-il donc? Il s'y ajoute une monstrueuse provocation. Si je vous ai bien écouté, monsieur le procureur général, vous avez mis à la charge du général Salan la voiture piégée du port d'Alger. J'ai attendu pour savoir si vous alliez parler de celle d'ici les Moulineaux. J'aurais protesté, je vous le garantis. Je l'attendais, mais vous ne l'avez pas dit. Vous ne l'avez pas dit? Et moi, je vais vous expliquer quel est le test que j'ai fait passer à vos témoins. Il avait l'air très simple, mais il était très important. Parce qu'il n'est pas vrai, paraît-il, qu'avec l'article 16, avec les progrès contemporains du droit pénal, avec tous les autres moyens connexes et annexes, il n'est pas vrai, paraît-il, que le pouvoir peut se battre efficacement. Il est besoin pour lui d'entrer dans l'illégalité. Alors j'ai demandé au général Ayré s'il avait existé des barbouzes. Général Ayré est venu tout droit sur les rails, comme d'ailleurs le tribunal l'a compris. Il a dit oui, mais je fais des réserves. Il a même dit que c'était des gens courageux parce qu'il y en a qui sont morts. Mais ils nous ont plutôt gênés qu'autre chose. En tout cas, ce n'est pas moi qui les manipulais. Tout le monde se souvient très bien de ce passage du général Ayré, qui était d'ailleurs fort exhaustif. Puis sont arrivés M. Morin, M. Jeannin qui a repris des forces dans le Loir-et-Cher, car à Alger il n'en avait pas tellement, et M. Debré. Je leur ai demandé, est-ce que les barbouzes ont existé? Quand M. Morin a répondu non, j'ai demandé au haut tribunal militaire une confrontation. Le haut tribunal militaire me l'a refusé. Il a bien fait, parce que nous avons vu M. Debré. Que pouvais-je demander de mieux? J'ai posé la question suivante, a-t-il existé des barbouzes? Et M. Debré a répondu comme M. Morin, comme M. Jeannin. C'était une réponse stéréotypée, il n'a jamais existé de barbouzes. À un certain moment, il s'est manifesté un certain flottement peut-être, et même un certain désordre dans les services de police en Algérie. Nous avons décidé d'y mettre de l'ordre, en envoyant des policiers métropolitains, mais il n'a jamais existé de police parallèle. Le dire, c'est méchanceté, diffamation et imposture. Voici en gros, messieurs, ce qu'ils ont dit. Ils ont menti, je le dis, et je le prouve. C'est M. Hack, directeur de la police judiciaire à la Sûreté nationale. Un vrai policier s'il en fut. Il était même un policier Algérie-Française, d'après la pièce que vous a lue tout à l'heure mon ami et confrère Maître Menuet. M. Hack est allé à Alger, et il a changé de nom. Il a pris le nom de professeur Hermelin. Alors aujourd'hui, monsieur le procureur général, quand vous demanderez à M. Debré qui dirigeait les barbouzes à Alger, il vous dira « il n'y a pas de barbouzes ». Monsieur Hack qui a pris en main le service. Et M. Debré ne mentira donc qu'à moitié, puisque M. Hack à Alger s'appelait le professeur Hermelin. Et la liaison avec le deuxième bureau était faite par le colonel Laurent, et la liaison avec M. Morin, qui nous a dit que rien n'existait, était faite par M. de Rochefort, chargé de mission au propre cabinet de M. Morin. Sans compter M. Pédousseau, M. Lapérouse et toute la liste que j'ai entre les mains des barbouzes qui ont servi à Alger. Cette police avait une carte verte avec un liseré tricolore paraissant délivré l'année précédente, alors que ses membres l'avaient touché la semaine d'avant. J'ai par conséquent, avec une lettre de M. d'Ormesson, député de Seine-et-Oise, les éléments qui me permettent de vous dire ici, M. le procureur général, qu'il ne faut pas parler des crimes de l'OAS quand on sait la manière dont a été traité l'OAS, qui était en somme une tendance, et une tendance qui représentait 3 à 4 millions de personnes. Non seulement elle n'a pas été invitée à préparer l'autodétermination, mais avant, bien avant qu'elle ait eu le temps d'accomplir, en gros, comme dit M. Morin, autre chose que des menaces verbales, elle était combattue de telle sorte, de telle manière, qu'il ne s'agissait pas d'un combat de l'autorité légitime contre des rebelles, mais qu'il s'agissait d'un combat par les camps de concentration, par les tortionnaires, par les polices parallèles, c'est-à-dire d'un combat illégalement mené par l'autorité légale. C'est là que l'on peut dire qu'il y a eu réellement légitime défense de la part d'une population ainsi attaquée. J'ajoute d'ailleurs, monsieur le procureur général, que pendant le même temps, la répression était nulle à l'égard du FLN, dont les attentats ajoutaient à une psychose collective. Et là, voyez-vous, il a été dit au procès du général Jouot qu'il était exact qu'à Oran, général Jouot avait tout fait pour essayer d'arrêter ces affreux attentats, ces attentats aveugles sur les musulmans, et que dans certains cas, il y était parvenu. C'était un témoin de l'accusation qui l'avait affirmé. Bien, il est certain, messieurs, que comme vous le rappeliez vous-même, monsieur le président, dans les notes obtenues par le général Salant revenait toujours cette phrase « dévoué aux populations autochtones auxquelles il donnait le meilleur de lui-même ». Il est impensable, messieurs, que le haut tribunal militaire puisse retenir des crimes de cette nature, mais il faut bien comprendre qu'à partir du moment où le FLN semble vainqueur, je parle de la période du 20 septembre au 20 avril, dès que dans un quartier musulman, on voit un Européen, on croit qu'il s'agit d'un membre de l'OAS, et il est abattu. Dès qu'on voit un musulman dans un quartier européen, il est abattu. C'est un réflexe, même pas de haine, vous a dit M. Philippe Marsay. C'est un réflexe de peur, affreuse et viscérale. Et cela, comment de bonne foi? Peut-on le mettre à la charge du général Salan? C'est bien pourquoi demander aujourd'hui au général Salan compte de tout cela me paraît à la fois excessif et injuste. Mais j'en viens aux détails.